Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ce matin, quand je priais donc pour cette réunion, donc une voix s'est vraiment imposée dans mon cœur avec une parole forte. Et cette parole qui dit « Repentez-vous et obéissez ». Et je crois de tout mon cœur que c'est une parole pour nous cet après-midi. Et moi le premier. Donc, parce qu'on peut, se repentir et ne pas obéir. Et on peut obéir sans se repentir. Vous savez, la repentance, c'est comme la clé. On ouvre une porte. Si j'ouvre la porte et que je ne passe pas la porte, bon. Je peux aussi enfoncer la porte si je n'ai pas la clé. Dans les deux cas, je ne trouve pas de paix. Amen. Obéissons au Seigneur. Je vous invite à lire avec moi un texte de la Bible dans Luc 15, à partir du verset 11. C'est un texte qui est connu, qui est bien connu dans les assemblées. Luc 15, verset 11. 24. Il dit encore, Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Alléluia. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Nous pouvons aussi nous réjouir cet après-midi. C'est possible. Et ce texte est l'image même de l'humanité. C'est une parabole que le Seigneur Jésus nous a laissée, qui est vraiment l'image de l'humanité aujourd'hui, qui a tendance à rejeter Dieu, a tendance à rejeter l'autorité de Dieu. Et j'aimerais qu'ensemble, nous entrions dans ce texte pour trouver quelques clés qui peuvent nous aider à prendre le chemin de la repentance et de l'obéissance. Amen. Donc, il y a cinq paliers. Le premier palier, c'est que Dieu respecte toujours notre libre arbitre. Toujours. Nous sommes là cet après-midi, qu'on soit chrétien ou pas, nous avons un libre arbitre. Nous avons une volonté. Et Dieu ne force jamais la volonté d'une personne. Et même si nous lui donnons notre cœur, et même si nous lui disons « Seigneur, fais ce que tu veux », il ne fera pas ce qu'il veut tant que nous ne le voulons pas. Vous voyez? Et il respecte notre libre arbitre. Et l'histoire de l'humanité nous révèle que l'homme a choisi, de façon globale, l'humanité de façon globale, a choisi de rejeter Dieu. Et Dieu ne s'est pas imposé. Il ne s'est pas du tout imposé. J'aimerais juste qu'on prenne dans 1 Samuel 8 l'exemple des enfants d'Israël. 1 Samuel 8, versets 1 à 9. Les enfants d'Israël ont passé 400 ans, 1 Samuel 8, versets 1 à 9. Donc les enfants d'Israël ont passé 400 ans d'esclavage. 400 ans, pendant ces 400 ans, ils ont été évidemment humiliés, méprisés, frustrés, meurtris. Et Dieu, qui a eu compassion d'eux, qui est un Dieu de compassion, les a visités, il a envoyé un libérateur qui les a libérés, qui a travaillé des signes, des prodiges, des miracles. Et donc après, Moïse évidemment est parti, Dieu l'a repris. Et après Moïse, il y a eu Josué. Après Josué, il y a eu des juges, et jusqu'au temps de Samuel. Et donc, nous lisons donc dans 1 Samuel 8, une histoire, ce texte est le tournant même de l'histoire des enfants d'Israël. Verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Béa-Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » En fait, ils voulaient ressembler aux autres nations. Comme ça peut nous arriver, même à nous chrétiens, de vouloir ressembler à ceux qui appartiennent à un autre royaume, parce que nous appartenons au royaume de Dieu. Et il y a d'autres royaumes. Et ça peut arriver qu'on décide de prendre un chemin qui fera qu'on ressemble à ceux qui appartiennent à un autre royaume. Et Samuel vit, au verset 6, avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. » Ils n'avaient pas pensé à ça, en fait. Et dans le Seigneur révèle à Samuel qu'en réalité, ils avaient déjà médité dans leur cœur de rejeter l'Éternel. Il dit, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Dans leur cœur, il y avait déjà des idoles. Et bien des fois, on prend des chemins qui sont bien loin du Seigneur. Nous rejetons le Seigneur, mais nous oublions que si on n'est pas dans le royaume de Dieu, on sera forcément dans un autre royaume. Soit on est sous l'autorité de Dieu, soit on est sous l'autorité d'un autre roi. Et le Seigneur a bien précisé, fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. Et ils ont eu des bons et des moins bons. Et ils ont payé le prix. Parce qu'ils ne voulaient pas que Dieu règne sur eux. Le fils cadet a aussi choisi de rejeter l'autorité de son père. Et il avait déjà résolu dans son cœur de le faire. Et c'est pourquoi il a marqué peu de jours après. Peu de jours après. Il est allé voir son père. Il n'était pas tout à fait sûr que son père dirait oui. Il pensait que son père allait peut-être essayer de le retenir. Mais quand il a vu que le père lui a dit, « Mais voici ta part », il lui a fallu peu de jours pour s'organiser, faire ses affaires, contacter des amis, trouver où aller, dissiper tous les biens que son père lui avait laissés. Et nous pouvons choisir de rejeter Dieu. Nous pouvons aussi choisir de rejeter l'autorité de Dieu sur nos vies pour les chrétiens. Dieu ne nous retiendra jamais. Parce que la relation que Dieu veut établir avec nous est une relation d'amour. Et dans cette relation d'amour, on ne force pas. Et Dieu ne veut pas forcer. Et cet après-midi, il ne veut forcer personne. Il veut avoir cette relation d'amour avec quelqu'un, peut-être qu'il ne le connaît pas encore, et peut-être quelqu'un qui a peut-être un nuage entre Dieu et lui. Il y a peut-être un nuage dans la relation de quelqu'un avec Dieu cet après-midi, mais Dieu veut tout rétablir cet après-midi si nous acceptons de passer par la repentance et l'obéissance. Donc le deuxième palier, c'est que Dieu ne nous accompagne pas dans nos mauvais choix. Il ne nous accompagne jamais. C'est vrai que Dieu est toujours avec nous, comme il a dit, qui sommes chrétiens. Dieu est toujours avec nous parce que sa parole est la vérité. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais si dans un domaine de notre vie, nous prenons une décision qui n'est pas en accord avec la vie de Dieu, dans cette situation, Dieu ne sera pas avec nous. Il ne nous accompagne pas. Il nous accompagne dans le chemin de la vie, dans le chemin du bien. Il a dit, je mets devant vous aujourd'hui le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Vous voyez, nous avons des choix tous les jours et des choix à faire. Et peut-être que vous découvrez l'Évangile. Dieu ne vous forcera pas non plus. Mais Dieu ne vous accompagnera pas non plus dans cette attitude de rejet. Je viens à l'église, mais je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas prendre position, mais quand j'aurai un problème, je peux faire appel à lui. Oui, il agira, peut-être, parce qu'il fait grâce. Mais on ne peut pas toujours compter sur ça. J'aimerais qu'on lise dans Romains 1, l'état de l'humanité, ou l'état dans lequel un homme, une femme sans Dieu peut se retrouver, ou même un chrétien peut se retrouver. Et l'apôtre Paul, Romains 1, verset 18. Donc, l'apôtre Paul a merveilleusement bien décrit l'état dans lequel un homme peut se retrouver quand il se confie dans ses pensées. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Alors, si nous regardons la nature, la création déjà nous parle d'un créateur. Parce que je ne pense pas que ce soit vraiment le fruit du hasard. C'est tellement bien ordonné qu'on ne peut pas parler du hasard. Un hasard parfait, je ne sais pas si ça existe. Et parfait à toutes les échelles. Les perfections invisibles. S'il existe des perfections invisibles de Dieu, c'est qu'il existe également des perfections visibles de Dieu. Des choses concrètes que nous pouvons voir dans nos vies quand nous nous approchons de Jésus, quand nous obéissons à sa voix. Donc, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu à travers son ouvrage, à travers la création, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu dans leur vie, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. À la source de nos problèmes, c'est nos pensées. Et quand on s'égare, nous prenons les chemins de nos propres pensées, nous nous égarons. Et parce qu'on est égaré, nos cœurs, forcément, se plongent dans les ténèbres, dans les ténèbres de la détresse, les ténèbres de l'angoisse, les ténèbres des frustrations. Et même de la maladie. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu ne les a pas pris pour les livrer à la convoitise ou les livrer. Non! C'est que Dieu ne les a pas suivis. Comme les enfants d'Israël qui ont pris le chemin de la détresse, parce qu'ils en ont eu des rois, des bons, des moins bons, ils en ont souffert, ils ont bien sûr reçu le salaire de leur chemin. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés une deuxième fois, c'est marqué, à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Dieu est bon, il est tellement bon. Comme on partageait tout à l'heure, je pense que c'est Jérémie qui le disait. Et c'est vrai, Dieu permet des fois qu'on passe par l'épreuve pour faire l'expérience de sa bonté et de sa compassion, de sa miséricorde. La bonté de Dieu, en effet, nous pousse à la repentance. Il est tellement bon qu'il est, il est patient et des fois, on pense que Dieu va agir de suite. Non, il est patient. Il attend qu'on passe par la repentance pour prendre le chemin de l'obéissance, pour qu'il revienne à nouveau dans le chemin avec nous, dans ce domaine précis. Verset 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le bien, le mal. Sur le juif premièrement, puis sur le grec, on pourrait dire sur le chrétien premièrement, puis sur le non-chrétien. Celui qui n'est pas encore chrétien. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Dans ce texte décrit l'humanité aujourd'hui. Et ce jeune, le fils cadet, a fait le choix de rejeter Dieu. Il a fait le choix de suivre ses propres pensées et son cœur sans intelligence, justement, a été meurtri. Meurtri par tout ce qu'il a vécu, par toute la détresse dans laquelle il s'est retrouvé. Et cet après-midi, nous pouvons saisir la grâce de Dieu qui nous permet justement d'être au bénéfice de ce qui est marqué ici, d'être au bénéfice de la gloire, de l'honneur et de la paix. Et nous pouvons cet après-midi encore nous approcher du Seigneur Jésus, et peut-être quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix peut s'approcher également de Jésus pour recevoir cette paix. Le Saint-Esprit nous aide à persévérer à faire le bien. Amen. Le troisième palier, c'est que Dieu ne change pas, ne transforme pas la moisson de notre semence. Il ne transforme pas la moisson de notre semence. Luc 15, verset 15. Le fils cadet est donc allé, il a dissipé ses biens en vivant dans la débauche. Et comme on l'a lu, en vivant dans toutes ces choses qui sont décrites dans Romains 1 et 1, 18 à 2, 16. Et il se retrouve donc au verset 15, il y a marqué, au verset 14, « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. » Il n'était pas dans le besoin. Quand on parle de besoin, ici, c'est un besoin, une nécessité, qui n'est pas comblé, il est dans le besoin, il n'a pas de solution à son besoin. Pourtant, il était chez son père, et il avait également des besoins, mais son père pourvoyait à ses besoins. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 15? Il y a marqué qu'il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Dans Galates 6, verset 8, il y a marqué que celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Et s'aimer pour la chair, c'est tout ce qu'on a lu dans Romains 1, 18 jusqu'à 2, 10. Il a semé pour la chair et il a moissonné un besoin, le besoin, la nécessité. Et dans la Bible en anglais, il y a marqué qu'il voulait remplir son estomac avec les carouches des pourceaux. Et heureusement que personne ne lui en donnait, et c'est normal, puisque Dieu n'a pas fait cet estomac pour les carouches. C'est pareil pour nos âmes. Dieu ne nous a pas donné une âme pour qu'on trouve, pour qu'on cherche à lui apporter la paix, la joie, dans les vices, dans les passions, dans toutes ces choses qui, au contraire, la détruisent. Et bien des fois, on cherche à combler ce vide. Nous cherchons à combler ce vide, comme le disait Blaise Pascal, nous avons dans le cœur une vie dans la forme de Dieu. Des fois, nous voulons mettre à la place des choses qui n'ont pas la forme de Dieu. Et ça crée des problèmes, ce qui est normal aussi. Notre âme, Dieu nous l'a donné une âme pour qu'elle prospère. Dieu veut que nos âmes prospèrent. C'est pour ça qu'il nous a donné une âme. Qu'elle prospère dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la bonté, la bienveillance, la foi, la patience, la maîtrise de soi, la douceur. Ces choses, nous pouvons, nos âmes peuvent prospérer dans ces choses par le Saint-Esprit. Et le fils cadet s'est retrouvé sans repère. La vie n'avait plus de goût, puisqu'il avait envie finalement de manger les carouches qu'on donne aux pourceaux. Ça veut dire qu'il avait perdu les repères, il avait perdu le sens de la vie. Et c'est ce qui peut arriver aujourd'hui dans la société, qui pousse même certaines personnes à se suicider. Parce qu'elles sont dans une situation où elles veulent une chose qu'on ne peut pas leur donner. Et elles sont comme bloquées. Il voulait remplir son estomac à tout prix. Mais il n'avait pas la salade niçoise.
Oui.
Il n'avait pas ces choses. Mais il ne voyait que les carouges. Parce qu'il avait perdu les repères de la vie. Et ça peut nous arriver. Parce que nous avons fait un mauvais choix. Parce que nous avons pris le chemin de nos propres pensées. Et ne remplissons pas nos estomacs avec les carouges. Ne nourrissons pas nos âmes avec autre chose que la parole de Dieu. En la mettant en pratique. Le fils prodigue était à terre. Il s'est retrouvé assis dans une porcherie. À terre dans le mépris et le rejet. Il était à terre. À terre dans la solitude et la frustration. Il était à terre dans la souffrance et le désespoir. Il était à terre, et c'est bien le cas de le dire, dans la boue du péché. Parce qu'il a fait un mauvais choix. Le choix de rejeter l'autorité de son père. Le choix de rejeter Dieu. De rejeter la parole de Dieu, qui au contraire a pour but, Dieu l'a donné pour nourrir nos âmes, pour nous permettre à nos âmes de prospérer. Et heureusement, gloire à Dieu, et c'est la bonne nouvelle pour peut-être quelqu'un cet après-midi, c'est que Jésus, lui, il est venu, qui est la parole de Dieu, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Il était littéralement assis dans les ténèbres de la détresse. Et la Bible dit qu'il est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger leurs pas dans le chemin de la paix. Cet après-midi, il peut nous remettre dans le chemin de la paix si nous l'avons perdu. Et pour quelqu'un, peut-être qu'il n'a jamais connu de paix, alléluia. Cet après-midi, le prince de la paix est au milieu de nous. Et vous pouvez recevoir cette paix. Et c'est gratuit. C'est une bonne nouvelle. Non ? Moi, je le crois. Et le quatrième palier, c'est que Jésus veut nous éclairer. Jésus-Christ veut nous éclairer. Le verset 17 est le tournant de cette parabole. Il y a marqué « étant rentré en lui-même ». Étant rentré en lui-même. Jésus-Christ veut nous éclairer. Dans Jean 7, il a été fait un petit peu mention dans les chants. Dans Jean 7, au verset 37, Jésus va faire une déclaration solennelle et qui est valable pour nous encore aujourd'hui. Il y a marqué que le dernier jour, Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Vous voyez, il s'est écrié. C'est pas par émotion, c'est par compassion. Il était ému de compassion pour l'humanité, il s'est crié, il a parlé avec force. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Soif de paix, soif d'amour, soif de délivrance, soif de guérison, soif de restauration, de reconstruction. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, par le Saint-Esprit. En passant par la repentance et la conversion, en confessant nos péchés aux pieds du Seigneur, lui, il nous aide à le suivre. C'est merveilleux. Il nous accompagne dans la repentance et il nous accompagne aussi dans la conversion. Il a tout accompli. Et il veut nous aider, il veut tout faire. Tout ce qu'il nous demande, c'est notre accord. Est-ce que je le veux, vraiment? Pourquoi suis-je là? Pour un peu de paix? Cher ami, vous pouvez repartir de ce lieu avec le prince de la paix dans votre cœur. C'est possible. C'est possible. Et dans Jean 1, que nous connaissons tous, Jean 1, il y a marqué qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jésus est la lumière du monde. Et il veut nous éclairer. Comme il a, le fils cadet a été éclairé dans sa détresse, dans le désespoir, il a été éclairé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il y a eu comme une illumination intérieure. Il est rentré en lui-même. Et il s'est dit, mais dans la maison de mon père, même les serviteurs sont heureux. Et je suis fils. Nous sommes fils et nous-mêmes, nous sommes héritiers. C'est ce qui est marqué dans Galates. Nous sommes héritiers de Dieu, par la grâce de Dieu. Nous sommes héritiers, nous sommes fils. Mais il est fils, mais même les serviteurs sont heureux. Et lui, il meurt de faim. Nous ne mourrons pas de faim de paix. De fin d'amour, de fin de joie. Mais recevons ces choses par la foi en Jésus-Christ. C'est possible. Jésus veut nous éclairer. Étant rentré en lui-même, il se leva. C'est ce qui est intéressant dans son attitude. C'est qu'il n'est pas seulement, il ne s'est pas limité à la repentance, mais il s'est levé. Et il est allé vers son père et il a parlé à son père. Il a confessé son péché. Il s'est repenti et il a obéi. Et c'est ce que Jean-Baptiste disait aux pharisiens qui venaient se faire baptiser. Il les encourageait à porter le fruit de la repentance. Se repentir et obéir. Il ne s'agit pas seulement de dire c'est bien, c'est une bonne idée. Oui. C'est une bonne idée, j'ai une bonne intention, mais Dieu ne nous sera pas fait selon notre bonne intention, mais c'est selon notre foi. Peut-être que vous venez, vous hésitez, vous ne prenez pas position, peut-être même que la vie chrétienne de quelqu'un n'est plus vraiment stable. Mais nous pouvons nous repentir, obéir, nous pouvons nous lever, alléluia, et aller vers notre Père, et lui dire toute la vérité. Le dernier palier, c'est que Jésus-Christ nous accueille toujours. Toujours. Je ne sais pas si vous demandez une audience au président de la République, je ne sais pas s'il sera toujours disponible. Mais vous voyez, Jésus est quand même au-dessus. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Mais il nous accueille toujours. Toujours. Quelle grâce! Quelle grâce! Et ce qui me frappe dans ce texte, il y a marqué « comme il était encore loin ». Alléluia! Il était encore loin. Et ça me fait penser à Romains 5, 8, où il est dit que Dieu prouve son amour. Il prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu qu'on soit parfait. Non. Il nous a aimés tels que nous sommes, tels que nous étions. Il prouve son amour. Et il l'a prouvé sur le bois de la croix, où il a accepté qu'une couronne d'épines lui perce le front, où il a accepté la détresse, la souffrance. Et l'une des choses les plus terribles qu'il a vécues, c'est la séparation avec son Père. Jésus ne l'a jamais connu. Il est venu du Saint-Esprit. Il était déjà même à 12 ans, l'Esprit de sagesse était sur lui. Il n'a jamais été séparé de son Père. Jamais. Mais Dieu l'a abandonné. Et Dieu l'a abandonné à cause de nous. L'apôtre Paul dit qu'il a été fait péché à cause de nous. Parce qu'il nous aime. Ne restons pas assis dans la détresse, dans la souffrance. Jésus nous aime. Il nous aime d'un amour. Nous ne pouvons pas le comprendre. Nous ne pouvons que le recevoir. Alléluia. Et c'est possible cet après-midi. Oui, et il n'est pas mort, il n'est pas resté, il est mort pour nous donner la vie, mais il est ressuscité pour inaugurer une nouvelle vie. Il est mort pour nous donner la délivrance, la guérison, le pardon des péchés, mais il est ressuscité pour inaugurer. La Bible aux Colossiens, il a marqué qu'il est le premier-né de toute de la création. Et il est dans une nouvelle... Dieu veut nous faire rentrer dans le royaume de son Fils, le Fils de son amour. Et nous pouvons entrer dans cet héritage qui est rattaché à Jésus. Il est ressuscité pour inaugurer une nouvelle vie. Et cette vie est une vie, on en parle de vie éternelle. Il s'agit de la connaissance de Dieu. Et dans la connaissance de Dieu, il y a la paix, il y a l'amour. C'est merveilleux. Ne restez pas assis à votre place. Vous n'êtes pas obligé de souffrir. Il y a une solution. Et elle est en Jésus. Elle passe par la repentance, par l'obéissance. C'est pas un mot, c'est un mot qui n'est pas populaire, mais c'est la clé de la vie. La repentance, c'est la clé de la vie. Dieu a un plan pour nous, un plan de délivrance. C'est ce que Jésus a annoncé dans Luc 4, verset 18-19. Et plus loin, il l'a confirmé, il a scellé au verset 21. Il dit que Dieu l'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le fils carré était pauvre. Il était dans le besoin de paix, le besoin de joie, le besoin d'amour. Il était perdu. Il a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et pour proclamer aux captifs la délivrance, quelle que soit la captivité. Nous avons chanté, veux-tu briser du péché le pouvoir? Il a déjà, c'est le plan de Dieu pour nous, pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, pour nous ouvrir les yeux, pour nous aider, pour nous donner du discernement, pour nous aider à discerner le bien du mal, pour proclamer, pour envoyer libres les opprimés. Quelle que soit l'oppression et quel que soit l'oppresseur, il a le pouvoir. Jésus a la capacité, le pouvoir et l'autorité de vous rendre libre cet après-midi. Si vous vous approchez de lui, pour lui donner votre cœur, votre vie. Je vais terminer avec un parallèle, à mon sens, intéressant. Dans Jean 8, versets 1 à 12, il nous est parlé d'une histoire, l'histoire de la femme qui a été surprise, Jean 8, 1 à 12, de la femme qui a été surprise en délit d'adultère. Et alors que les anciens et les religieux, les anciens parmi les religieux, je parle, voulaient la lapider, Jésus va plutôt lui donner une parole de grâce. Il va lui dire au verset 11, « Je ne te condamne pas non plus. » Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous relever, pour nous restaurer, pour nous rétablir. Il a dit, « Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Peut-être que cette femme, on ne la connaît pas trop. Mais il y a l'exemple de quelqu'un que nous connaissons très bien, qui s'appelait Saul de Tarse. Dans Actes chapitre 26, verset 15. Vous savez que Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, le Seigneur lui est apparu sous la forme d'une lumière. Et il a été subitement aveugle. Mais il y a quelque chose d'intéressant. On peut faire un parallèle avec l'histoire de cette femme. Jésus lui dit, l'apôtre Paul lui dit, il a marqué verset 15, « Je répondis, qui es-tu, Seigneur ?» C'est l'apôtre Paul qui parle. Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Je suis Jésus que tu persécutes. Il ne s'est pas arrêté là. Il y a un « mais ». Le « mais » est très important. Il dit « mais », verset 16, « Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. » Le jeune homme, le fils cadet s'est levé, il est allé vers son père. Son père l'a rétabli et La femme surprise en délit d'adultère a également été relevée par le Seigneur et restaurée. L'apôtre Paul va dire, c'est son expérience. Il dit, Dieu lui dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. On n'est pas tous appelés à être ministres, mais on est tous appelés à être témoins. Le Seigneur Jésus a un plan pour vous. Il veut que vous soyez ses témoins. Des témoins des choses que vous allez voir dans votre vie. Quelles sont ces choses? La délivrance. la guérison, la paix, la joie. On y revient parce que c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Il n'est pas mort pour instituer une religion. Il est mort pour nous donner la paix, pour nous donner la joie, pour nous apporter la délivrance, la guérison, toutes ces choses pour répondre à nos besoins, les besoins de nos âmes et les besoins de nos corps aussi. Amen.
Amen.
Et c'est l'expérience que le fils cadet va vivre. On va terminer là-dessus. L'accueil que son père lui a réservé est extraordinaire. Verset 20. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Dieu nous voyait. Il nous voyait déjà en 2011, le 30 juin 2011. Quand il mourait sur la croix, il nous voyait déjà au loin. Mais il était ému de compassion. Il est allé jusqu'à la croix. Alors qu'il avait le pouvoir de demander à une légion d'anges de le délivrer. Non, parce qu'il était ému de compassion. Et le Père, ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le Seigneur Jésus nous attend les bras ouverts cet après-midi. Les bras ouverts. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Vous allez voir, le Père ne répond pas. Il va dire autre chose. C'est ce que Jésus a dit, mais. Et quand on voit avec la femme pécheur, la femme qui a été surprise en délit d'adultère, pareil, il ne juge pas, il ne condamne pas. Au verset 22, nous retrouvons le mais. Mais le Père dit à ses serviteurs, mais il lui a pas fait de reproche. Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un manteau aux doigts et des souliers aux pieds. Le jeune homme, quand il est arrivé, il n'était pas propre. Mais il a été rétabli, il a été restauré, il a été reconstruit. Et amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Dieu veut se réjouir, que vous vous réjouissiez. Et même, il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand. Amen. Et cet après-midi, vous pouvez vous réjouir. Parce que quand il y a de la joie dans le ciel, le Saint-Esprit qui nous met en communion avec le Père nous communique cette joie aussi. Nous pouvons nous réjouir ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. Réagissons comme le fils cadet. Réagissons comme lui. Il est rentré en lui-même. Il s'est levé et il est allé vers son père. Il a été restauré, il a été rétabli et il a pu se réjouir. Amen. Il ne pouvait pas se réjouir avec les pourceaux. Il y aurait eu un problème de communication. Non, il s'est réjoui dans la maison de son père. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta mort sur la croix. Oh, merci pour ta compassion. Tu es allé jusqu'à cette croix parce que tu nous aimes. Et parce que tu voulais nous délivrer et tu l'as fait. Tu as payé le prix de notre délivrance et de notre restauration, de notre guérison. Nous te remercions, Seigneur. Merci de ta présence dans ce lieu. Merci d'accomplir ton œuvre dans les cœurs. Seigneur, que vraiment personne ne se prive de ta grâce cet après-midi. Et que nous repartions tous avec ta victoire dans nos cœurs. La victoire sur le péché. La victoire sur toute la délivrance de toute captivité. Merci, Seigneur, pour ton œuvre dans les cœurs. Pour le salut d'une âme. Pour la paix, pour la joie, pour ta grâce. Gloire à Dieu pour l'œuvre que tu as accomplie sur le bois de la croix. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.